Kant nous a présenté une vision sublime de la morale ou du devoir, avec cette ambiguïté que agir par devoir, on en est certain que lorsqu'on souffre, que lorsqu'on sort, on pourrait presque dire des catégories de la sensibilité ou des catégories esthétiques. Et en même temps, ce qui plaît à Kant, c'est aussi cette sublimité du devoir. Il y a une catégorie esthétique qui répond, voyez, à l'apparition, au phénomène du devoir. Le sentiment d'être au-dessus du monde. Le sentiment de ne plus appartenir même à ce monde. Le sentiment même d'être au-dessus de soi-même, de son animalité, bien sûr, mais de son humanité, évidemment. Le sentiment peut-être de rejoindre une loi qui est impersonnelle, justement, hein, même si elle est au fondement de la personnalité pour lui, mais impersonnelle, et surtout acosmique, puisqu'elle est au-dessus du cosmos. Hein. Vous comprenez, acosmique, ça veut dire sans cosmos. Hein. La loi nous fait entrer dans un domaine qui est celui de la raison, mais de la raison en tant qu'elle est justement pas simplement la raison de l'homme, mais la raison en général, qui vient même contraindre l'homme et en le contraignant, le rend autonome à l'égard, si vous voulez, de tout ce qui est mondain, de tout ce qui est sensible, de tout ce qui est circonstanciel, de toutes les conditions particulières. Et c'est là qu'il y a peut-être une ambiguïté. Pourquoi un tel refus de la sensibilité, un tel refus de la chair et du corps, et même un tel refus du monde? Est-ce qu'il n'y aurait pas chez Kant, vous voyez, une manière de mépriser notre condition terrestre, de mépriser notre condition charnelle? Pourquoi cette morale qui se veut justement, qui se refuse à être une anthropologie? Pourquoi affirmer des valeurs même qui deviennent plus importantes, on pourrait dire, que la vie contingente elle-même? C'est pour ça qu'on peut avoir un immense soupçon à l'égard de Kant, et même un soupçon que derrière toute sa morale, il y a une forme de ressentiment. Et même, on peut avoir un soupçon à l'égard de toute la philosophie qui a un goût un peu trop prononcé pour l'impersonnel. Surtout quand elle prétend faire un système moral qui transcenderait, vous voyez, absolument toutes les circonstances et même toutes les individualités. C'est ce qu'a profondément pensé Nietzsche. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons aborder cette pensée qui a un caractère assez particulier parce qu'elle se situe, on pourrait dire, à la frontière de la philosophie et de la littérature. Nietzsche est un très grand écrivain. C'est l'auteur d'une œuvre littéraire majeure qui s'intitule « Ainsi parlait Zarathoustra », œuvre qui cherchait d'ailleurs à concurrencer la Bible dans la traduction qu'en avait faite Luther. Nietzsche n'a d'ailleurs pas du tout la formation d'un philosophe, je dirais, classique, puisqu'il a d'abord étudié, il était professeur de philologie. Nietzsche est un lecteur de textes et de textes anciens, et c'est quelqu'un qui, justement, vous voyez, quand vous lisez le texte d'un auteur en tant que philologue, ce qui vous intéresse, c'est pas d'en dégager les valeurs universelles, c'est d'essayer de faire ressortir, on pourrait dire, l'intention singulière ou l'originalité propre, vous voyez, de l'auteur. Donc une démarche qui n'est pas du tout la même que celle de la philosophie. Une démarche qui se veut une démarche, au contraire, où on s'intéresse à ce qu'il y a de personnel dans une œuvre. Et non pas, on ne se tourne pas vers une universalité, je dirais, abstraite ou conceptuelle. Ça, c'est la grande force de Nietzsche. Alors, Nietzsche est considéré, bien sûr, comme celui qui a dit « Dieu est mort », comme l'ennemi juré du christianisme, et même comme un penseur, je dirais, profondément nihiliste. Ça, c'est vrai et c'est faux. Nietzsche est effectivement anti-chrétien, mais en même temps, il faut bien voir ce qu'il a connu du christianisme. Et ce qu'il a connu du christianisme, c'est un certain christianisme puritain lié au protestantisme de son père pasteur. Quelque chose qu'il a éprouvé comme suffocant. Alors bien sûr, il va être confronté aussi à des textes catholiques, il ira à saint Augustin, mais malgré tout, tout cela dérive de cette expérience première. Donc on peut se demander s'il attaque le christianisme dans sa vérité ou s'il attaque le christianisme dans ses abus. Et c'est pourquoi de nombreux auteurs chrétiens ont reconnu en Nietzsche souvent moins un ennemi qu'un allié. Je pense notamment à ce grand écrivain, d'ailleurs lui-même très très nietzschéen dans sa manière d'écrire, une forme, vous voyez, des aphorismes, non pas des traités de philosophie, c'est Gustave Thibon. Gustave Thibon a écrit un très beau livre sur Nietzsche et a montré justement la vertu, on pourrait dire, de sa pensée, même pour être chrétien davantage, vous voyez, plus profondément. Parce que Nietzsche attaque des choses, voilà, qui sont en grande partie attaquables. La deuxième chose, c'est que la fameuse phrase de Nietzsche « Dieu est mort » n'est pas à penser comme une affirmation militante au départ. C'est le constat que la société qui est en train de s'établir à son époque est une société désormais sécularisée, qui ne se fonde plus sur l'Église ou sur un Dieu. Faut jamais oublier à quelle époque écrit Nietzsche, hein, c'est-à-dire à l'époque de la révolution industrielle, des systèmes politiques modernes qui essayent de penser non plus une communauté à partir d'un donné, d'une transcendance, d'un héritage, mais comme constitué par un contrat, par des individus. Et dès lors, vous voyez, la mort de Dieu, dans le grand texte qui la mentionne, la mort de Dieu est considérée comme quelque chose, comme une évidence, et comme quelque chose à quoi on doit trouver une réponse qui n'est elle-même pas du tout évidente. La question de Nietzsche n'est pas du tout une question où la mort de Dieu serait quelque chose, vous voyez, une sorte de point de départ facile et la résolution de tous nos problèmes. Vous savez, comme c'est chez certains, la plupart des athées qu'on connaît aujourd'hui, je pense à ces athées scientistes assez stupides, par exemple quelqu'un comme Richard Dawkins, vous voyez, qui sont à peu près les figures renversées du fondamentalisme religieux. Voyez, le fondamentaliste religieux va dire « Dieu, Dieu, si vous mettez Dieu à toutes les sauces, voyez, il n'y aura plus de mal dans le monde, tout va bien se passer. » Et ces athées-là vont dire exactement la même chose à l'envers, c'est-à-dire « Enlevez Dieu, ne parlez plus de Dieu et tout ira bien. » Vous voyez, pour l'athée comme pour le fondamentaliste, si vous voulez, il est très facile de parler de Dieu. Et dans les deux cas, il y va d'une sorte de formule magique qui va résoudre tous nos problèmes. Soit qu'on en parle positivement, soit qu'on en parle négativement, de manière systématique. Vous voyez ? Pour Nietzsche, ça n'est pas du tout ça. L'athéisme n'est pas du tout une solution. C'est un abîme. qui nous laisse vraiment dans le désarroi. Et pour en arriver au dernier point, le soi-disant nihilisme de Nietzsche, Nietzsche n'est pas du tout un penseur nihiliste. C'est au contraire celui qui a essayé d'aller contre le nihilisme le plus radicalement possible, pensant justement, enfin dénonçant aussi bien la métaphysique que ce soit celle de Platon, d'Aristote, enfin surtout Platon, aussi bien la métaphysique que le bouddhisme, que le christianisme, comme des formes de nihilisme. C'est précisément parce qu'ils lui apparaissaient comme des nihilismes qu'il se sentait tenu de les dénoncer. Donc, c'est un contresens complet que de voir dans Nietzsche quelqu'un qui serait un auteur d'une sorte de négation absolue de tout. C'est au contraire quelqu'un qui essaye de se tenir dans la plus grande affirmation. Alors, vous voyez, je vous ai mis en exergue cette parole de Ecce Homo, qui est un livre que j'aime beaucoup, bien sûr. Hein. Ecce Homo, c'est lui, donc la parole qui s'applique au Christ, il se l'applique à lui-même. Mais en même temps, vous savez que le Ecce Homo, c'est un Christ qui a été complètement flagellé, qui apparaît complètement défiguré. Hein. Donc, il sait aussi qu'il est méconnu, qu'il est rejeté. Et alors, c'est un texte qui ressemble, vous savez, à cette sorte d'auto-exaltation de soi qu'on trouve chez certains grands rappeurs, vous voyez, où il a cesse de s'auto-célébrer avec des... Mais c'est très chouette, en fait, c'est un livre très drôle. Donc, les chapitres, c'est « Pourquoi je suis un génie ?»« Pourquoi j'écris de si bons livres ?» Voilà. Et alors, vous avez notamment le tout premier chapitre, voilà, « Pourquoi je suis un destin ?» Et il écrit « J'apporte la contradiction comme on ne l'a jamais fait et je suis malgré tout l'opposé d'un esprit qui dit non. » Nietzsche n'est pas un esprit qui dit non. Nietzsche voudrait dire oui et un oui absolument radical, total. Un oui face à l'existence telle qu'elle est donnée. Ce grand oui que Nietzsche a cru voir davantage chez Dionysos que chez le Christ. Mais vous savez qu'au moment où il va devenir fou, à Turin, alors que, vous savez, il empêche un cocher de frapper son cheval, vous voyez, un cocher est en train de cravacher son cheval, alors il s'interpose, etc., et il s'effondre, et à partir de ce moment-là, vous voyez, il a eu une sorte d'attaque cérébrale, donc il va... Et le début de sa folie, il va continuer à écrire quelques textes, et il écrira des lettres, notamment, qu'il signera Dionysos le crucifié. Alors, vous voyez, question de ces deux figures qui, tout d'un coup, convergent chez lui. Premier point que je voulais aborder avec vous. D'abord, Nietzsche a ce souci de repartir de la vie telle qu'elle est donnée. C'est pour ça qu'il estime que la prétention de la philosophie à tenir un discours absolument surplombant, universel, est un aveuglement. Parce qu'en réalité, tout philosophe parle à partir de lui-même et donc à partir de sa propre vie. Cette idée qui relèverait d'une forme d'angélisme, hein, qu'un homme aurait une position absolument surplombante, vous pouvez dire, oui, s'il parle à partir de sa raison comme telle, mais le problème, c'est que, vous voyez, j'essaie de vous tenir un discours à partir d'une anthropologie qui n'est pas forcément celle de Nietzsche, mais il faut essayer de le comprendre même à partir de l'anthropologie qui vous est donnée, même une anthropologie thomasienne, on pourrait dire, hein, de saint Thomas d'Aquin. Mais malgré tout, notre raison est dans la condition charnelle et elle parle à partir d'un environnement donné, d'une expérience personnelle. Nous ne sommes pas des anges. Et en cela, Nietzsche a raison de préciser qu'il faut faire attention de penser qu'on pourrait produire une sorte de système. Et à la limite, même plus le système a l'air impersonnel, plus c'est louche. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il essaye de fuir, le type ? Dans sa propre vie, vous voyez, il y a quelque chose qui est bizarre. En voilà un texte extrait de Par-delà le bien et le mal, qui évoque bien sûr Kant. Et voilà ce que dit Nietzsche. « La tartufferie aussi rigide que modeste du vieux Kant. » Et tous les mots sont pesés. Hein. C'est un tartuffe, d'abord. Il est rigide, mais en même temps modeste, parce que vous voyez, il dit qu'il se soumet à la loi, etc. Par où il nous attire dans des voies détournées de la dialectique, ces voies qui nous mènent, ou plutôt nous induisent, à son impératif catégorique, ce spectacle nous fait sourire, nous autres enfants gâtés, qui ne prenons pas un petit plaisir à surveiller les subtiles perfidies des vieux moralistes et des prédicateurs de la morale. Combien cette mascarade laisse deviner la timidité et le côté vulnérable d'un malade solitaire. Voilà ce qu'est Kant, un malade solitaire. On retrouverait d'ailleurs chez Kant quelque chose d'analogue à ce qu'on avait vu chez Singer, c'est-à-dire une sorte de loi qui est désincarnée. Et l'homme qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'enfant, qui ne sent pas justement le caractère passionné, peut-être d'une certaine morale. Et que la défense du bien commun vient aussi du fait que l'on sent qu'on est un fils et qu'on a des enfants et qu'on doit viser quelque chose qui nous dépasse. Non, ce n'est pas ça, Kant. Il faut que ce soit, vous voyez, une universalité absolument abstraite. Et donc, c'est un malade solitaire. Je me suis rendu compte peu à peu de ce que fut jusqu'à présent toute grande philosophie, la confession de son auteur, une sorte de mémoire involontaire et insensible. Et tout est dit là. C'est une confession travestie, bien sûr, en système, mais en réalité, celui qui prétend faire un système parle de lui. Et il marque, vous voyez, même une sorte de fuite devant lui-même. C'est pour ça que cette confession se fait de manière involontaire et insensible. Et voilà la conclusion de Nietzsche, ou plutôt, c'est pas une conclusion, c'est un postulat. Hein, et on voit bien ici qu'il y a une affirmation de la primauté de la vie elle-même. Parce que ce qu'il dit là, il faut bien comprendre ce que ça veut nous dire. Écoutez, hein, chez le philosophe, il n'y a rien d'impersonnel. Et particulièrement sa morale témoigne d'une façon décisive et absolue de ce qu'il est, c'est-à-dire dans quel rapport se retrouvent les instincts les plus intimes de sa nature. On pourrait critiquer cela. On pourrait dire, à ce moment-là, on est dans un relativisme absolu. Chaque philosophe aurait son système de valeurs, chacun. Vous voyez, et à ce moment-là, on pourrait retourner le compliment à Nietzsche et dire, Nietzsche aussi ne témoigne que de ce qu'il a de personnel. Et à la limite, peut-être ce discours lui-même pourrait être renvoyé à l'idée d'un choix personnel ou d'une confession involontaire. En même temps, vous voyez ici le désir de ne pas partir d'un concept, mais de partir du donné de l'existence. Et le donné de l'existence, c'est que d'abord, il y a des personnes. Et que, bien sûr, nous disons des choses, mais c'est toujours un sujet qui les dit et qui les dit à quelqu'un, dans un contexte. Donc, vous voyez, c'est chez Nietzsche ce postulat, ou ce désir en tout cas, de partir d'un point de vue personnel. Quand il veut dire personnel, ça veut dire concret, ça veut dire vivant, ça veut dire, vous voyez, qu'il ne prétend pas tout de suite mettre le concept au-dessus de l'existence. Et on retrouve cela dans tout ce qui va s'en suivre chez lui. Alors, à partir de Nietzsche va apparaître, vous voyez ici, l'idée, bien sûr, qui n'est pas sans ironie de dire que c'est surtout dans son système moral que, que le philosophe va faire sa confession et qu'il va montrer ce qu'il est au fond, puisqu'il ne serait là qu'à justifier les propres conditions de son existence. Bon. Et qu'on peut soupçonner chez tout philosophe moral, voyez, ce désir de s'auto-justifier, d'adapter la règle à sa vie. Alors vous pouvez dire, oui, mais quand lui, justement, c'est pas du tout particulier. Oui, c'est pas particulier parce que c'était précisément quelqu'un qui ne vivait que, qui passait ses journées à écrire, vous voyez, qui faisait des promenades solitaires, qui n'était pas tellement engagé dans l'épaisseur de l'existence conjugale, paternelle, politique, etc. Mais aussi, Nietzsche est celui qui va introduire de manière très très forte la notion de valeur en philosophie. Alors le mot existe avant lui. Cela dit, en passant, hein, la notion de valeur comme notion majeure de la philosophie est une notion extrêmement tardive. On trouve ça dans un texte de Düring, donc antérieur à Nietzsche, qui s'intitule « La valeur de la vie ». Vous entendez ça d'ailleurs dans des phrases du type « La vie vaut-elle la peine d'être vécue ?» On est dans la question de la valeur ici. Mais si vous regardez des textes anciens, chez Platon, chez Aristote, chez Thomas d'Aquin, est-ce que le mot « valeur » apparaît en morale ? Il y a des préceptes, il y a des vertus, et le mot « vertu » est absolument central. Et puis, ce qu'on vit, c'est un bien, c'est le bien. On parle du bien, on parle des biens, mais pas de la valeur. Parler de valeur, c'est déjà partir d'un présupposé. Et Nietzsche donc opère un double mouvement. Il reconduit la morale à la question des valeurs et il va montrer que la question des valeurs a des présupposés. Et ces présupposés, quels sont-ils ? Alors, vous voyez, vous pouvez dire que vous êtes aussi un défenseur des valeurs. Vous pouvez avoir, par exemple, vous êtes un défenseur des valeurs humanistes ou un défenseur des valeurs chrétiennes. D'accord ? À ce moment-là, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous êtes un défenseur des valeurs chrétiennes et vous arrivez dans cette sorte de grande bourse aux valeurs, voyez, un marché des valeurs, où vous avez vos valeurs chrétiennes, vous essayez de les faire valoir devant un autre qui a des valeurs bouddhistes, des valeurs laïcistes, des valeurs... Vous voyez, chacun aura ses valeurs musulmanes. Je me souviens d'une... J'en ai peut-être déjà parlé, que j'avais été invité à l'université d'été organisée par Christine Boutin. Je ne sais pas si certaines personnes se souviennent de cette femme politique catholique qui date du gouvernement de Sarkozy, donc de la préhistoire. Plutôt de quelque chose qui n'a pas eu lieu, en fait. Voilà. Et à un moment, elle a voulu se présenter justement au présidentiel. Finalement, elle ne l'a pas fait, bon, à la fois pour des questions d'argent, mais aussi parce que c'est très difficile d'être une branche, à faire partie de l'UMP, enfin maintenant des Républicains, et en même temps essayer d'avoir une affirmation propre. Bon, c'est une des grandes difficultés. Membre de son parti, d'ailleurs, se trouvait ce Jean-Frédéric Poisson, hein, qui a enseigné d'ailleurs à Philanthropos, et qui aujourd'hui est celui qui est en avant de ce parti démocrate chrétien. Et alors, elle a dit, mais si je me présente, c'est pour défendre, au moins qu'il y en ait un dans la campagne présidentielle, qui défende les valeurs chrétiennes. Alors moi, j'ai dit, Christine, vous êtes nihiliste. En bon Nietzsche, hein, voilà ce que je veux dire. Vous voulez défendre les valeurs chrétiennes, vous voulez être nihiliste. Ça veut dire quoi, défendre les valeurs chrétiennes ? C'est-à-dire, vous allez marchander avec d'autres, vous allez montrer que vos valeurs valent mieux, elles sont belles, mes valeurs, venez, elles sont plus fraîches, etc. Bon, vous allez être... Voilà, vous allez... Et puis la deuxième chose, c'est que quand vous êtes chef d'État, vous ne défendez pas des valeurs, vous défendez des personnes, vous défendez vos citoyens. Vous voyez ? Donc vous arrivez, vous êtes président, c'est pour défendre des personnes. Et je reviens à cette question des personnes, oui. Et pas simplement pour défendre des valeurs. C'est quand même louche déjà quelqu'un qui dit « je vais défendre des valeurs ». À ce moment-là, vous allez sacrifier des personnes aux valeurs, si c'est ça que vous défendez en premier. C'est ce qui s'est passé, vous savez, alors ce type de discours, vous l'entendez par exemple après les attentats de, l'attentat de Nice, terrible attentat, hein, que la commémoration du Bataclan tend à nous faire oublier, enfin voilà, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, parce que Sting a chanté au Bataclan là samedi, mais je ne sais pas ce qu'on va faire là sur la promenade des... On va faire un nouveau feu d'artifice, hein. Mais les attentats de Nice, vous savez, juste après les attentats de Nice, vous avez eu, je ne sais plus si c'était Emmanuel Valls ou François Hollande qui a dit « On a voulu atteindre les valeurs mêmes de la République. » Voilà. « On a attaqué la République dans ses valeurs. » Non mais putain, quel con, quoi. Non mais il n'y a pas d'autre chose à dire. Il y a des gens qui sont morts. On vous demande de protéger votre population. N'est pas... Lui, il dit non, non, on a atteint des valeurs. C'est monstrueux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas lui que j'attaque, vous voyez, plus que, à la limite, les chrétiens qui défendent des valeurs chrétiennes. C'est pareil. Oui, Paul.
Parce que dans cet exemple, ce n'est pas parce que, justement, Emmanuel Valls considérait que la protection des individus absolus était du coup devenue une valeur politique, quoi, que maintenant le politique doit se porter garant d'une sécurité absolue.
Alors, on pourrait dire que le politique doit se porter garant doit ménager l'espace pour la fructification des personnes. Voilà. C'est pas que la sécurité, parce que vous voyez, si on pense uniquement en termes sécuritaires, maintenant la sécurité est quelque chose de fondamental. Mais ce n'est pas que la sécurité. Un des points fondamentaux, c'est par exemple aussi la répartition, la manière de favoriser la petite propriété pour que chacun puisse aussi être responsable de sa vie, être capable de produire, d'avoir un vrai travail, etc. Pour moi, c'est ça, ce qu'on appelle le distributisme, vous savez. Hein, bon. Mais... Si vous voulez, ça reste quand même, l'enjeu, ça reste quand même de garantir, c'est vrai aussi, la vie des personnes, et pas simplement de garantir des valeurs. Les valeurs sont ce... Je dis pas, attention, hein, je suis pas en train de dire, il faut mépriser absolument les valeurs, je suis pas en train de dire ça, mais je suis en train de vous dire, vous voyez, que la vie est supérieure à la valeur. Et que dès que vous posez la question de la valeur de la vie, vous êtes déjà dans une inversion terrible. Alors, ça, c'est l'intuition très forte de Nietzsche, c'est-à-dire que le moralisme lui-même, la défense des valeurs elle-même, a quelque chose de nihiliste. Précisément, ce qui apparaît comme la sortie du nihilisme, c'est-à-dire la valorisation, donner un sens à la vie. Vous savez, ceux qui faisaient ces discours, vous allez donner un sens à la vie. Quand vous dites « je vais donner un sens », j'ai vu ça, il y a un nouveau hors-série de Famille chrétienne, « donner un sens à son travail », ça, c'est une affirmation nihiliste. Pourquoi ? Alors ?
Parce que la vie a déjà un sens, on a besoin
de... Voilà. Ça veut dire que vous présupposez que la vie n'a pas de sens en elle-même, que votre travail, vous faites vraiment un travail de con, quoi. Et alors, comme vous faites un de ces innombrables bullshit jobs, vous êtes en train de dire, voilà, vous allez, allez les gars, vous allez donner un sens, allez, vous êtes en train de souffrir avec le Christ. Ça, c'est du nihilisme. Et c'est ça ce que Nietzsche a vu. Ah, vous êtes en train de souffrir. Ça, exactement ça, c'est cet énoncé-là, vous voyez, que Nietzsche voit comme nihiliste. Et complice de tous les asservissements. Vous voyez ? Alors, je reprends ce qu'il dit, voilà. Il parle, dans la généalogie de la morale, d'une exigence nouvelle. Et voilà ce qu'il veut faire. Donc, voilà cette exigence nouvelle. Nous avons besoin d'une critique des valeurs morales Et la valeur de ces valeurs doit tout d'abord être mise en question. Bah, oui, vous commencez par les valeurs, la question c'est quelle est la valeur des valeurs ? On tenait la valeur de ces valeurs pour donner réelle au-delà de toute mise en question. Et c'est sans le moindre doute et la moindre hésitation que l'on a jusqu'à présent attribué au bon une valeur supérieure à celle du méchant, supérieure au sens du progrès, de l'utilité, de l'influence féconde pour ce qui regarde le développement de l'homme en général, sans oublier l'avenir de l'homme. Comment ? Que serait-ce si le contraire était vrai ? Si, dans l'homme bon, il y avait un symptôme de recul, quelque chose comme un danger, une séduction, un poison, un narcotique qui fait peut-être vivre le présent aux dépens de l'avenir. Vous voyez, chez Nietzsche, il y a ce désir d'affirmer la valeur de la vie présente. Hein. Donc, d'affirmer quelque chose qui est intrinsèque à la vie et qui ne dépend pas d'une valorisation extérieure. D'une façon plus agréable, plus inoffensive peut-être, mais aussi dans un style plus mesquin, plus bas. En sorte que, si le plus haut degré de puissance et de splendeur du type homme possible en lui-même n'a jamais été atteint, la faute en serait précisément à la morale. En sorte que, entre tous les dangers, la morale serait le danger par excellence. Vous voyez, ce qui permet à Nietzsche d'affirmer ça, c'est qu'il y a eu Kant avant lui. Et que Kant a présenté la morale comme une contrainte qui doit, d'une certaine façon, empêcher le déploiement de l'homme simplement en tant qu'homme. C'est cette idée de cette loi qui fait que le monde intelligible vient soumettre le monde sensible, mais en le contraignant, non pas en le libérant, vous voyez. Et c'est pour cela qu'il dit par ailleurs, exiger que le devoir soit toujours quelque peu incommode, vous vous souvenez, il faut en baver, hein, comme disait Kant, hein, pour être sûr qu'on agit par devoir, c'est exiger qu'il n'entre jamais dans les habitudes et les mœurs. Dans cette exigence, il y a un petit reste de cruauté ascétique. Donc, critique des valeurs comme étant des positions qui sont généralement imposées de l'extérieur par rapport à la vie. Vous voyez, on va caractériser ce qui est bon, ce qui est méchant, ce qui est... mais on l'impose de l'extérieur par rapport aux personnes. De telle sorte que, vous voyez, au lieu de libérer la vitalité, on la met dans un carcan. Et il dit, s'il n'y a pas eu l'homme vraiment splendide, c'est parce que, justement, on a cherché à valoriser la vie. Et derrière cette valorisation, il y a donc quelque chose qui méconnaît ce qu'est vraiment la vie. Il y a une fuite devant la vie et son drame, son risque, même sa tragédie, vous voyez, on essaye de tout ramener à une sorte de dispositif, vous voyez, tranquillisant. C'est pour ça qu'il emploie le terme « narcotique ». À partir de là, Nietzsche va penser que la morale, telle qu'elle a été déployée jusqu'ici, en tout cas chez la plupart des philosophes, Kant surtout, apparaît comme la conséquence d'un ressentiment. La morale n'est pas du tout un remède au mal, c'est un symptôme. Et voilà pourquoi Nietzsche ne va pas hésiter à critiquer les grandes catégories morales, notamment par exemple, et pour commencer, hein, la notion de bonheur. Je vous ai déjà suggéré dans ce cours que si le but de votre vie, c'est de viser le bonheur comme bien-être, en tout cas, comme état de paix constant, si c'est ça ce que vous visez, forcément, vous n'allez pas risquer de grandes aventures, quoi. Il va falloir vous préserver. On pourrait même penser que ce sont les philosophies dites du bonheur qui sont à l'origine du culte du confort, mais de ce confort qui finit par être étouffant. Vous ne voulez plus vous marier parce que vous avez peur, vous ne voulez plus avoir d'enfants, en fait, vous ne voulez plus aimer. Parce que aimer, c'est forcément devenir vulnérable. C'est forcément peut-être risquer d'avoir le cœur brisé, mais enfin, non, avoir le cœur brisé. Parce que ce que vous allez aimer est mortel. Ce que vous allez aimer est vulnérable lui-même, blessé d'ailleurs déjà, et puis est capable de pécher. Et puis, oui. C'est dans la vie quotidienne, dans la vie familiale, que le pardon doit spécialement s'exercer. C'est facile, parce que c'est avec les personnes que vous aimez que vous avez le plus besoin de pardonner. Si quelqu'un que vous aimez pas vous a fait un truc, bon, il vous a fait un truc, mais on pourrait dire, il vous a pas atteint au cœur, mais vous ouvrez, vous offrez votre cœur, voyez, comme quelque chose de bon, désarmé à la personne que vous aimez. Mais quand elle, et ça arrive forcément, vous êtes un être humain, quoi, vous blesse, oula, ça fait très mal. Hein. Alors voilà, vous êtes obligé, vous devez pardonner là. Vous voyez ? C'est à ses amis qu'il est le plus difficile de pardonner, si j'ose dire. Vous avez fait très mal, parce qu'ils vous font mal plus loin, plus au fond. Donc, si vous commencez à dire, voilà, je veux éviter, par exemple, les dangers de l'amour. Vous savez cette phrase très belle de C.S. Lewis ? Qui dit qu'il n'y a qu'un seul lieu où on peut éviter la tragédie, en dehors du ciel, c'est l'enfer. Et le refus d'entrer dans le drame de l'amour, et ça vous conduit directement à l'enfer. Parce que qui aime s'expose. Et non seulement s'expose, donc devient vulnérable, mais ce n'est pas la simple vulnérabilité, c'est le fait qu'on est de toute façon, qu'on sera blessé, comme le Christ en croix. Donc, si vous commencez à parler en termes de bonheur, et tout dépend comment vous allez entendre ce bonheur. Hein. Vous pouvez entendre le bonheur comme perfection de l'être. D'accord, alors à ce moment-là, ça va, je n'ai pas rien à dire. Bonne heure, l'heure, la chance, vous voyez, vous êtes au bon endroit. Mais si vous l'entendez comme un état constant de bien-être, voyez, c'est une catastrophe morale. Et c'est pour ça que Nietzsche a cette phrase absolument extraordinaire, décisive, hein, et implacable et irréfutable. Le désir du bonheur caractérise les hommes partiellement ou totalement malvenus, les impuissants. Et c'est quand vous êtes malade que vous cherchez à être tranquille. Vous n'allez pas bien. Vous avez mal au ventre, vous cherchez l'état de tranquillité. Vous avez... Donc, finalement, quand vous mettez comme visée le bonheur, ce qui peut se comprendre, hein, mais c'est que déjà, vous êtes dans une morale de personne qui ne va pas bien. Qui se sent pas bien. Et c'est à partir, vous voyez, de ce mal que vous projetez le bien. Comme privation du mal. Comme confort. Mais qu'est-ce que cherche un homme qui serait vraiment en bonne santé ? Qui ne serait pas, vous voyez, toujours dans cette position de celui qui a un petit problème et qui voudrait s'en sortir et... Il ne cherche pas le bonheur. Voilà ce qu'il écrit, hein, ceux qui ne sont pas malvenus, ceux qui ne sont pas impuissants, voilà ce qu'il écrit. Les autres ne songent pas au bonheur, leur force cherche à se dépenser. Un homme qui est dans la plénitude de la vitalité, la question qu'il se pose, ce n'est pas mon confort, ce n'est pas mon bonheur, mais où est-ce que je vais pouvoir dépenser mon énergie ? quel est le lieu, si vous, vous pourriez l'entendre dans des termes chrétiens, hein, où vais-je pouvoir m'offrir ? Fais de nous une éternelle offrande à ta gloire. Il n'est pas dit dans la messe, fais que, voilà, on soit tranquille, hein, que la vie soit sympa. Hein ? Oui, pas celle du monde, justement. Peut-être, mais à quel niveau se situe-t-elle ? C'est quand même... Vous voyez, la question, si vous pensez, si vous dites, voilà, le Christ dit, je vous donne ma paix, d'accord ? Et vous avez même des explicitations pour dire, dans l'Évangile, que ce n'est pas la paix du monde qu'il nous donne. Et il ne cesse de nous dire, vous avez entendu d'ailleurs les lectures de ces dernières semaines, elle ne nous laisse pas tranquilles. On a une paix au sens où on sait que le drame, la fin du monde, c'est notre affaire. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on va l'éviter. Ouais. On est en paix parce qu'on sait, mais ne vous effrayez pas, parce que quand il y aura toutes ces horreurs, je vous ai prévenu, c'est là et c'est là que vous allez témoigner. Donc ne vous effrayez pas, d'accord, vous voyez, c'est cette forme de paix-là. Mais à aucun moment, vous voyez, la paix, c'est cette paix comme privation du drame, comme absence de drame. Et c'est plutôt une manière d'épouser le drame en reconnaissant dans le drame le mystère de la croix, donc de la rédemption, et donc un chemin vers la gloire. Vous voyez. On en parlera quand on va parler du Seigneur des Anneaux, forcément, puisque c'est aussi la question de l'héroïcité qui peut être derrière cela. Mais vous voyez, nous cherchons d'abord, quand on parle des bienheureux apôtres, bien sûr on parle ici d'un certain bonheur, mais le bonheur n'est pas conçu comme confort, comme bien-être, mais comme ceux qui ont vécu dans la charité de telle sorte qu'ils ont été d'autres Christ pour leur temps et qu'ils sont rentrés radicalement dans le drame de l'amour divin. Et c'est ça le problème de notre époque. C'est qu'on croit que les gens cherchent la satisfaction de leurs intérêts, qu'ils cherchent leur confort. Vous donnez tout le confort possible à quelqu'un, il y a deux possibilités. Soit ça lui convient, mais c'est un porc, c'est plus un être humain, soit il va être encore plus malheureux, et comme vous lui proposez rien à quoi donner sa vie, il va devenir djihadiste. Vous avez remarqué hein, que les djihadistes, ce n'est pas forcément des gens qui ont vécu des choses... Vous voyez, on a vu dans certaines élites bourgeoises, vous voyez, apparaître ce phénomène de radicalisation. Et alors, les gens ils disent, mais on ne comprend pas. On leur avait pourtant proposé des tas de trucs. Regardez, la PlayStation 5, elle est sortie, l'iPhone 7 et tout. On ne comprend pas pourquoi ils ont envie de mourir pour quelque chose. Oui, mais Nietzsche nous le fait comprendre. Parce que tant qu'on est malade, effectivement, on aspire à être bien, mais quand on va bien, on aspire à quelque chose qui ait du sens. Quand on dit du sens, ça veut dire qui fait qu'on est prêt à mourir pour cela. Vous voyez ? Le sens est toujours à ce prix-là. Hein. Ce qui fait sens, c'est ce pourquoi vous êtes prêt à mourir. Hein. Donc, oui. Sens de la vie est toujours lié à la mort. Pourquoi est-ce que vous êtes prêt à mourir ? À vivre et mourir, bien sûr, c'est ce que je veux dire. Enfin, vivre d'abord, bien sûr. Oui, Claire ?
Tout à l'heure, vous disiez que justement, c'était une église de penser qu'il fallait donner un sens à la vie et que la vie...
Oui, oui. Là, vous dites que... Quel est le sens, voilà ? Pas le donner, peut-être le trouver. Je n'ai pas dit... Attention, le donner et le trouver, ce n'est pas la même chose. Hein. Ah oui, voilà. On pourrait faire une critique de la notion de sens comme toujours nihiliste. Alors ça, c'est possible. Certains ont essayé de le faire en disant bah, voilà, faut éviter même la notion de sens parce que allez, c'est encore des projections qu'on veut imposer à la vie. Mais moi, je dirais qu'il y a une différence entre donner un sens et dégager le sens de la vie. Vous voyez la différence hein. C'est-à-dire que la vie elle-même a son propre déploiement. D'accord ? À aucun moment, le Christ dit « Je suis la valeur, sacrifiez-moi vos vies. » Il dit qu'il est la vie. Et s'il avait dit simplement qu'il était le chemin et la vérité sans dire qu'il est la vie, ce qui est le point ultime d'ailleurs hein, de cette révélation à Thomas, ce serait catastrophique. Donc ça c'est très important, hein. Le désir du bonheur comme bien-être, comme confort, comme c'est une grande catastrophe et Nietzsche a le génie de voir qu'il y a en nous quelque chose, voyez, qui est de l'ordre du désir profond de se dépenser, de déployer sa vitalité. Oui. Alors, le problème, c'est que chez Nietzsche, la nature de la dépense n'est pas complètement explicitée, mais vous voyez, il y a cette idée d'une vie qui a une fécondité, qui fructifie, et qui fructifie aussi en passant par quelque chose qui ressemble à un sacrifice, en tout cas, vous voyez, le grain de blé qui tombe en terre, le fruit qui se détache de l'arbre, c'est ça la fructification. Vous vouliez dire quelque chose, Emmanuel ?
Oui, c'était juste par rapport à quand on parlait de la distinction entre le sens de la vie et un sens de la vie. Ici, c'est un peu la distinction qu'on voit, par exemple, entre l'existentialisme et de l'autre côté, par exemple, une psychologie comme la logothérapie. La logothérapie, elle cherche à identifier le sens de la vie, et c'est comme ça qu'elle soigne les gens. Tandis que l'existentialisme, justement, il est plutôt dans la création ex nihilo d'un sens.
Oui, alors l'existentialiste va dire que chacun est libre et qu'il invente lui-même ses valeurs. Bon. Donc effectivement, on pourrait dire que la vie est informe en elle-même. Elle provoque la nausée et que c'est la décision finalement de l'individu qui donnerait une formalité à cette vie. Alors oui, ça on pourrait le penser. Et alors c'est pour ça qu'on pourrait même penser que Sartre, qui se croyait finalement... assez nietzschéen, était en fait très anti-nietzschéen. Alors, de l'autre côté, la logothérapie, alors vous parlez d'un auteur, je ne sais pas si tout le monde a entendu parler de ça, vous en avez entendu parler en fait déjà tous, oui, en cours, ou je ne sais pas, non ? Ouais, c'est cette discipline, c'est cette psychanalyse, c'est l'autre psychanalyste viennois qui n'est pas Freud et qui n'est pas Jung, je pense que Jung était viennois, je ne sais pas, qui s'appelle Viktor Frankl, qui... parle de la question du sens comme étant première. L'enjeu, c'est pas d'essayer de régler des comptes avec des traumatismes qu'on a eus auparavant, vous voyez, c'est le problème de la psychanalyse freudienne qui est une sorte d'archéologie du sujet, où on voudrait toujours revenir aux périodes, vous voyez, alors où est-ce que j'ai eu du mal, des choses, j'ai des blocages. Et ce que veut dire Frankl, c'est que le cœur de la thérapie n'est pas selon une modalité archéologique, mais téléologique. C'est-à-dire, quelle est la finalité de ton existence ? D'une certaine façon, si ta vie a un sens, peu importe de ce que tu as souffert auparavant, même de ce que tu souffres à présent, en fait, tout ça, d'une certaine façon, est assumé, dépassé dans et un élan positif vers un avenir. Et donc, vous voyez, chez Frankl, il y a cette sorte de primauté de l'avenir sur le passé, primauté d'une forme, on pourrait dire, d'espérance sur l'idée qu'il faudrait dépasser certains refoulements, vous voyez. Donc, on est toujours tourné vers le passé. D'accord ? Bon, je fais un raccourci, hein, mais enfin, en gros, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Emmanuel, avec cette manière de présenter Frankl. Bon, mais je voudrais juste vous faire attention. D'un côté, vous pouvez avoir ceux qui disent « chacun donne du sens à sa vie, etc. » Je vous ai dit « c'est nihiliste ». Mais vous pouvez avoir aussi l'extrême inverse. N'oubliez jamais que la vérité, elle se situe entre deux erreurs contraires, au moins. L'erreur inverse, c'est de dire « la vie a un sens qui est complètement évident, et donc, dès que vous avez trouvé de sens, il n'y a plus de drame, il n'y a plus d'interrogation, il n'y a plus... » Vous voyez, c'est ce que j'ai appelé ce désir cette manière de confondre l'esprit avec l'instinct. On voudrait régresser vers un mode de vie instinctif. Où on penserait qu'une vie humaine, vraiment, qui se passerait bien, c'est une vie où on ne se pose pas de questions, quoi, en gros. Ah non, questionner, se questionner, être questionné, surtout, c'est une dimension profonde de la vie humaine. Et confondre la vocation avec un programme... Je dis ça au prof P2, là. Comment dire? Vous appelez comment? Non, vous appelez.
Propédeute, c'est très bien.
Des propédeutes?
Oui, il y en a qui disent discernant, mais c'est faux.
Discernant, oui, propédeute, discernant. Bon. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Il y a plein de mots, il y a regardant, je ne sais pas comment. Non,
c'est ce que. Si,
bon. Donc. Tout d'un coup, vous voyez, il y aurait quelque chose. L'appel de Dieu, bien sûr, il a une évidence, il a un déploiement, mais c'est une histoire. Il nous fait entrer dans une histoire, dans un drame. Ce n'est pas un programme. Vous voyez, c'est le triduum pascal, l'appel de Dieu. Si vous pensez que, ah, vous avez le don de l'Esprit Saint, ça y est, quand vous avez l'Esprit Saint, vous allez vivre comme une bête. Une bête surnaturelle, vous voyez, c'est-à-dire selon un instinct, mais qui sera un instinct divin et pas animal, vous voyez. Non, mais non, c'est pas ça. L'Esprit-Saint ne va pas vous épargner les efforts, l'Esprit-Saint ne va pas vous... Au contraire, le signe que vous agissez selon l'Esprit, ça peut être aussi que vous faites des efforts. C'est François de Sales qui insiste là-dessus. Oui ? Le. Je n'ai pas entendu la dernière phrase en fait. Vous avez parlé en anglais dans la fin. Oui, oui. Le quantified self, c'est ça. Hein. C'est aussi déléguer la tâche de l'interrogation ou du questionnement à des machines. Quoi, et passer son temps à lire des diagrammes sur. Sur sa propre vie, de telle sorte qu'on va trouver l'algorithme qui du bonheur, quoi. Donc c'est bien sûr ça, hein, derrière le quantified self. Alors, je vais essayer d'avancer quand même.